Non, c'est. Et donc je vais enchaîner. D'ailleurs, l'enchaînement va se faire assez, assez facilement. D'abord, je remercie Barbara Villet de nous avoir proposé cette conférence qui nous permet à la fois de faire avancer notre réflexion sur la figure du juge menée dans le cadre de ce séminaire depuis longtemps, depuis 2 ans, et puis aussi plus largement dans le cadre du projet collectif ARC sur le juge, un acteur en mutation. Alors, c'est vrai qu'il y a des résonances immédiates entre ce que vous avez dit aujourd'hui et mes recherches actuelles sur le juge, puisque je m'intéresse particulièrement au juge tragique, à une figure du juge tragique, mais pour mettre en évidence un aspect tragique du jugement. En tout cas, c'est un thème qui revenait beaucoup, la difficulté de juger, sans devoir parler forcément du tragique, qui peut prendre plusieurs dimensions qui étaient assez claires dans ce que vous avez évoqué. Ça peut prendre la forme d'un arbitrage entre des droits équivalents. Vous avez dit qu'il convenait d'établir l'équilibre entre les droits des uns et des autres. C'était spécialement parlant concernant la culture juridique de common law, mais je pense qu'il y a aussi des résonances dans le cadre de la tradition juridique continentale. Cette recherche du raisonnable aussi dont vous avez parlé, en sachant que c'est un horizon qui ne peut être jamais tout à fait atteint avec certitude en tout cas. Et puis cette absence de certitude, elle s'attache aussi aux faits eux-mêmes, c'est-à-dire ces faits qui se sont produits, mais qu'on ne peut que reconstituer que de façon imparfaite. On ne peut jamais connaître avec certitude la vérité de fait. C'est un thème qui est bien connu. Pensons à ce qu'on dit du témoignage, au travail de la mémoire, qui est aussi un travail d'oubli et de reconstruction. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Alors vous avez aussi au niveau du matériau que vous avez mobilisé parlé de cette série de Sidney Lumet qui n'est pas un choix étonnant puisque moi je me suis aussi intéressé à son cinéma dans le cadre de cette recherche, avec cette question du doute qui est tout à fait omniprésente chez ce cinéaste. Et vous avez cité Le Verdict, mais on peut penser aussi au plus ancien 12 Hommes en colère, qui est un film très connu, un vrai classique du genre film de procès, mais dans lequel on voit finalement comment le doute d'un seul individu se propage à l'ensemble du collectif que constitue le juge. Dans Le Verdict, cette question du doute est aussi très présente et elle se double d'une méditation de Lumet sur la question de l'erreur, puisque cette erreur qui met en danger la fonction de juger, le jugement, et la force du cinéma évidemment de nous montrer que cette crainte de tomber dans l'erreur pour le protagoniste principal du film de Lumet, Le Verdict, qui est joué par Paul Newman, affecte aussi sa vie personnelle et pas uniquement sa vie professionnelle, puisque il commet aussi une erreur sur la femme qui se met à aimer pendant le film. Alors, la première question que je voudrais vous poser par rapport donc aux différents éléments que vous avez mis en lumière aujourd'hui, peut-être, c'est une double question, mais avec ces deux questions qui sont qui sont en tension. D'une part, la question de l'articulation entre justice et politique, je dirais, et la question de la culture juridique que vous avez évoquée, mais que j'aimerais approfondir brièvement, et puis on pourra le faire peut-être dans votre réponse et dans la discussion avec la salle. Alors, elles sont liées, ces deux questions. Et en reprenant vos travaux pour préparer cette séance, je me disais que Alors, je constatais que vous montriez bien, et vous avez encore montré aujourd'hui, même si c'était plus en filigrane et puis plus explicitement à la fin de votre intervention en parlant de l'antijuridisme et de la méfiance vis-à-vis des institutions judiciaires qu'on pouvait éprouver en France, peut-être de manière plus inconsciente que sciemment. Mais en tout cas, vous parvenez, en étudiant les représentations de la justice à la télévision, à mettre en évidence des différences fondamentales entre les cultures juridiques de common law et romano-canonique. Donc, si on rappelle cette opposition, pour bien être au clair avec ça, on a une opposition entre une culture juridique dont l'archétype sont les États-Unis, où on voit une méfiance vis-à-vis de la politique. Donc, une culture qui est plus juridique que politique. Et puis, d'autre part, une culture qui est plus politique que juridique, pour reprendre un vocabulaire que vous utilisez parfois, dont l'archétype serait la France, et où on voit donc cette méfiance vis-à-vis du droit, voire cet anti-juridisme, qui peut culminer d'ailleurs dans la dénonciation du gouvernement des juges. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que on ne pourrait pas dire, plus précisément, que cette opposition que vous tracez est en réalité une opposition entre, d'une part, une culture de la pluralité, donc une culture de la pluralité des opinions politiques, culture de la pluralité des interprétations de la loi, une culture de la pluralité, pour reprendre un thème sur lequel vous appuyez fortement, pluralité des versions raisonnables qu'on peut donner d'une affaire, avec aussi cette façon d'entremêler dans la tradition de common law, c'est un point que vous soulignez souvent, le fait et le droit, de ne pas traiter le fait et le droit de manière successive, comme deux étapes d'un raisonnement, mais cette volonté d'intégrer dans un récit cohérent le fait et le droit. Alors ça, ce serait une première option. Culture de la pluralité, puis d'autre part, une culture, voire un culte de l'unité, dont l'exemple typique serait la tradition politique française, qui a évidemment, via la Révolution française, mais pas uniquement, des répercussions sur la culture politique continentale. Donc la France est un exemple typique. On peut penser, par exemple, à cette figure du président monarque, pour prendre un exemple qui n'est pas spécialement juridique. En ce qui concerne les répercussions sur la procédure judiciaire, je dirais qu'on a peut-être cette illusion, en tout cas je l'appellerais une illusion, d'une quête d'une vérité univoque dans le cadre d'une procédure judiciaire, par rapport donc à une position qui serait plus anglo-saxonne, plus pragmatique peut-être, qui accepte la pluralité des points de vue par rapport à une affaire. Et également les limitations de notre accès à la vérité factuelle. Alors, pour prendre un exemple dans notre actualité, enfin, c'est plus tout à fait notre actualité directe, mais l'affaire DSK, sans doute beaucoup de mal à la comprendre du point de vue d'une tradition continentale, comme je l'appelle, c'est-à-dire parce que la question que se pose le procureur, et je parle sous votre contrôle parce que je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais la question que se pose le procureur, c'est: est-ce que j'ai assez d'éléments dans ce dossier pour convaincre un jury? Alors que la question que se posent les télécitoyens, comme vous les appelez, peut-être induit en erreur par le gouffre entre culture juridique, c'est: est-il coupable ou pas, va-t-il être jugé? Ce sont peut-être des manières différentes d'aborder une même affaire. Alors, il me semble qu'on a même concernant cette opposition, on a même des traces cinématographique, alors je pensais à un film qui est plutôt léger, mais qui moi m'a fort interpellé quand je l'ai vu, dans un moment d'égarement, mais ça reste un film. Donc c'est le film Legally Blonde 2, La Blonde Contre-Attaque,
c'est pas si mal,
qui justement fait suite à au film La Revanche d'une Blonde, qui on voyait le parcours de la protagoniste principale dans une faculté de droit. Moi, je les ai vus il y a longtemps, donc je ne me souviens plus très bien. En tout cas, ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est le fait que dans le 2, on retrouve cette même personne plaider la cause des animaux, puisqu'elle veut retrouver, je pense, la mère de son petit chihuahua. Elle découvre alors un trafic d'animaux assez horrible. Et donc, elle veut faire avancer la cause du droit des animaux et se retrouve dans une commission qui prépare le travail du Congrès américain. Et j'ai été frappé par l'organisation des auditions qui ressemble tout à fait à un procès. Alors que le travail parlementaire en France ou en Belgique s'organise pas de cette manière-là, même si on a parfois et même souvent des auditions qui sont menées, hein, des auditions qui permettent d'éclairer une commission préparatoire au travail parlementaire. Finalement, dans ces commissions, la plupart des décisions se prennent, hein, il faut le savoir, mais on n'a pas ce calque du procès. Alors, voilà, c'est une question assez massive, assez générale, mais c'est peut-être pour ça que je présenterai les choses comme ça, pour dire qu'on a peut-être une culture dans laquelle on pense plus facilement l'articulation entre le politique et le juridique, la tradition anglo-saxonne, et puis une culture, une tradition dans laquelle on ne peut penser les choses qu'en termes de subordination de l'un par rapport à l'autre. Et si on fait un pas plus loin, parce qu'en posant la question, évidemment, moi j'ai mes propres intérêts théoriques derrière, mes propres lectures, mais il est possible d'aller chercher du côté des racines historiques des deux républiques. Et de comparer finalement une révolution plurielle aux États-Unis avec qui a hérité d'une monarchie limitée qui a pris son autonomie par rapport à la couronne britannique et puis une république qui est née de manière plus douloureuse en France et qui succédait à une monarchie absolue. Alors, je reviendrai dans la discussion si c'est nécessaire sur ce point-là et sur cette question. Je pose toutes mes questions ou bien je...
Ben, disons, les 6h20, donc si elles sont un peu plus courtes.
Oui. D'accord. Alors,
Il faut juste que tout le monde puisse en poser si utile.
Mon autre question, elle concerne... l'institution du jury populaire, elle est un peu en lien avec la précédente, parce que je pense que la question du jury est peut-être est certainement une bonne entrée théorique dans cette opposition entre culture juridique. On aurait d'un côté une confiance dans la politique. Donc du côté de la France, une confiance dans la politique qui n'est pas une confiance dans ce que dit ou ce que fait la classe politique, hein, parce qu'on le sait bien, par exemple en France ou en Belgique, on connaît au contraire des mouvements de défiance par rapport à la classe politique, mais on a au moins une confiance en la politique dans le sens d'une confiance dans la justesse, dans la rectitude de la volonté nationale une fois qu'elle a été énoncée et qu'elle a pris la forme d'une loi. Alors, cette préséance de la loi et ce culte du législateur qui a encore, je pense, la vie dure dans la culture juridique continentale, on peut l'illustrer de diverses manières. Par exemple, dans les résistances qui ont été opposées à la reconnaissance du pouvoir créateur du juge, alors qu'on connaît la règle du précédent dans la tradition de common law, qu'elle forme la structure de l'organisation du système juridique de common law. Une deuxième illustration serait la difficulté à installer un contrôle de constitutionnalité des lois dans certains pays du continent. Je pensais aussi à l'institution des opinions dissidentes. Qui illustre aussi, je pense, ce différent. Ou encore au fait que les juges américains, on le voit aussi à la télévision ou au cinéma, emploient souvent, enfin, disent je, utilisent cette forme, alors qu'on a le célèbre attendu que quand on pense à un jugement rendu en Belgique ou en France. Et donc, en fait, ma question, c'est est-ce que la question de l'éducation à la citoyenneté par la télévision, dont vous parlez beaucoup dans votre premier livre et dont vous avez encore parlé aujourd'hui, et la question du jury, donc culture de méfiance par rapport à l'institution du jury, culture de défiance, ne sont pas d'une certaine manière liées, voire... Est-ce qu'on ne pourrait pas les poser de manière assez, assez identique ? C'est-à-dire cette idée qu'un jury, c'est une unité hétérogène dans laquelle il y a une confrontation d'opinions qui est peut-être difficile à concevoir dans une tradition juridique où on met sur piédestal le juge professionnel, qui se caractérise, on va dire, pour aller rapidement, par la maîtrise, sa maîtrise de la technique juridique. Alors, je voulais encore vous poser une question. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, c'est peut-être en vous écoutant parler de votre des trois âges de séries télévisées, je me demandais si vous ne pouvez pas... faire un parallèle, mais qui est peut-être un peu osé, mais avec peut-être des évolutions qui ont affecté d'autres formes d'expression artistique. Je pensais à la littérature du 19e siècle, spécialement en France, mais où on a eu un passage, pour le dire de manière quand même assez rapide, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais quand même c'est quelque chose qui m'a semblé assez intéressant, un passage aussi en trois phases, du romantisme vers le réalisme pour aboutir au naturalisme. Donc, cette idée que, comme vous l'avez dit, dans la première, si on s'intéresse donc aux séries télévisées, on a une première période qui est centrée sur un avocat qui est un ange gardien de la loi, qui est un chevalier servant, avec des juges et un jury qui sont quand même assez passifs. Dans une deuxième période, si j'ai bien suivi votre typologie, on aurait des séries judiciaires qui mettent en avant une vision plus nuancée du fonctionnement de la justice, qui mettent en avant le caractère complexe des interactions entre les divers protagonistes de la justice, où le juge apparaît comme un acteur que comme un pur spectateur. Même si l'avocat reste un personnage assez central. Ça, ce serait la deuxième phase de la justice. Et puis, troisième période dans laquelle on serait entré, alors j'ai du mal à déterminer quand, mais vous allez pouvoir m'éclairer, peut-être dans les années 90, avec l'humanité des protagonistes de la justice qui est davantage soulignée, comme vous l'avez montré d'ailleurs dans certains extraits, où on montre les faiblesses, des protagonistes de la justice, spécialement des avocats, mais pas uniquement, qui sont parfois avides de pouvoir ou de reconnaissance, qui veulent gagner leur procès en ce qui concerne les avocats ou les procureurs, parfois à tout prix, mais qui se heurtent à la réalité du système judiciaire et aux prétentions concurrentes d'autres acteurs de la justice. Et puis dans cette série qui s'inscrit donc dans cette troisième phase, on se rend compte que tout n'est pas rose au sein du système judiciaire et que les dysfonctionnements y sont nombreux. Alors est-ce que on ne pourrait pas montrer que cette typologie est tributaire, mais vous l'avez montré d'une certaine manière, elle est tributaire d'un certain statut qu'on accorde au format série en tant que tel, c'est-à-dire... Et alors je reprends ma typologie pour l'appliquer. On aurait un âge romantique avec une vision héroïque de l'avocat, dans mon hypothèse, avec l'exemple de Perry Mason qui est vraiment très très parlant, qui parle, je pense, aussi à un public comme celui-ci. On aurait une vision réaliste de la justice. Ma question, est-ce que... Pour donner un exemple d'une série très réaliste, je pense que Law and Order, est vraiment que vous avez longuement analysé dans votre livre, est vraiment un très bon exemple d'une volonté d'être réaliste. Où vous rappelez que Dick Wolf souhaitait dans cette série la faire ressembler à un documentaire, quasiment. Est-ce que la troisième phase a été atteinte avec The Wire, qui est une série qui est peut-être pas tellement connue, mais qui a été assez maladroitement traduite en français par Surécoute. Moi, je connais assez peu cette série, mais j'ai été assez frappé de constater, sur base de ce que j'avais vu, que les concepteurs de la série s'étaient fait aider par des sociologues et des anthropologues. Et ça me fait penser au geste naturaliste. Donc spécialement dont le porte-drapeau était Zola, cette volonté penser la justice, à l'époque du naturalisme, de penser les phénomènes humains en appliquant les méthodes des sciences de la nature des sciences sociales naissantes. Donc est-ce qu'il y a cette volonté là aussi de replacer la justice dans un contexte social et politique le plus large possible, quitte à perdre, à déplacer la focale de la justice vers d'autres domaines qui sont en lien avec elle, parfois de manière assez éloignée. Et alors la question serait aussi, puisque je pense que c'est une question qui vous préoccupe malgré tout, qu'est-ce qui pourrait venir après, sans vouloir jouer les devins, ou plus généralement, question plus généralement formulée, comment vous imaginez l'évolution future de l'écriture des séries judiciaires? On est en train de passer à un autre âge des séries judiciaires? Quel pourrait être le rôle des juristes ou des académiques qui s'intéressent à la justice plus généralement dans ce nouvel âge des séries judiciaires?
Ok, alors je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, et j'essaie de grouper certains points. C'est vrai que les deux systèmes remontent à leur histoire et que l'histoire joue un rôle essentiel dans les deux cultures juridiques. Le fait que la France était une monarchie, tout se résume, à mon avis, dans les deux expressions que les traducteurs veulent absolument se faire comme équivalents, mais qui ne sont pas équivalents du tout. D'un côté, on a l'état de droit, où c'est l'État qui décide et tout vient d'en haut, et de l'autre côté c'est the rule of law, et the rule of law n'est pas la traduction de l'État de droit. The rule of law c'est law rules, et donc c'est la loi, c'est le droit, c'est la jurisprudence qui gère les rapports entre les gens, alors que dans le système qui vient d'une monarchie, c'est papa qui décide. Vous avez, quand on regarde le procès, on voit bien qu'on est dans un système où c'est l'Église catholique qui est à la base aussi, alors que de l'autre côté, c'est une tradition de travail. On se roule les manches et on voit ensemble et on bouge dans le tribunal et c'est d'un côté très pratique et de l'autre côté conceptuel. Il y a les lois cadres, il y a des décisions qui sont faites en amont qui vont gérer les situations. Alors que lorsqu'il y a, en Angleterre, lorsqu'il y avait la création du Parlement, il y avait déjà une énorme jurisprudence qui avait réglé les problèmes entre les gens. Et quand le Parlement a été créé, ils ont posé la question, est-ce qu'on doit maintenant rendre en forme de loi toutes les règles qui gèrent les rapports entre les gens? Ils ont dit non, ça marche. Il n'y a aucune raison à légiférer des choses qui... Donc, vous avez une tradition pratique d'un côté, et c'est tout à fait ce que vous avez dit, et c'est ça. Ce qui est très important lorsqu'il y a un système que je considère comme plus horizontal, il n'y a pas comme moi qui le dis d'ailleurs, c'est la responsabilité individuelle, l'importance de l'individu. Et l'importance du jury populaire et l'importance de prendre ses responsabilités. Vous l'avez du côté du jury qui souvent joue un rôle presque plus important que le juge dans les séries. Et vous l'avez aussi du côté de l'accusé. Law and Order est fondé sur l'idée que quelles que soient les raisons d'un crime, il y a eu crime, il y a eu un meurtre. Donc, on paye à la société, on paye à la victime, on paye aux survivants, parce qu'on a une dette à payer. Et c'est ça qu'il faut assumer. Il y a un film que vous devez absolument regarder, c'est Cleveland versus Wall Street, je crois. Je ne sais plus quel. C'est Cleveland versus Wall Street. Et c'est un film intéressant. Dans la ville de Cleveland, il y a eu énormément de familles à cause de la crise et à cause de les répercussions de la crise sur l'industrie automobile, énormément de familles qui ont perdu leur maison à Cleveland. Et il y a un groupe qui décide de porter plainte contre Wall Street parce que les banques ont créé une situation invivable dans cette ville. Et c'est un des formats qui commence à se voir maintenant au théâtre, un petit peu au cinéma, pas encore dans les séries, c'est-à-dire que c'est des vrais acteurs en justice qui jouent le rôle d'avocats et juges, etc. Et on utilise des non-acteurs pour jouer d'autres rôles. Ce qui est très intéressant dans il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce film, mais c'est encore une fois où c'est la responsabilité de l'individu. On se trouve dans une situation, le jury qui comprend le drame de ces personnes qui ont perdu leur maison, et c'est un procès civil, hein, et donc ils veulent dommages et intérêts, le jury comprend la situation horrible dans laquelle il se trouve, mais vote quand même contre Cleveland. Pourquoi ? Parce que nous, les membres du jury, on a réussi à ne pas tomber dans ces pièges. Ils pouvaient aussi. Donc c'est tout à fait le discours de la juge dans 100 Century Street. Et c'est très américain. Et c'est là où je dis qu'on est dans une autre culture, non seulement juridique, mais une culture tout court, parce que c'est extrêmement... Enfin, j'assiste à un procès en France et je suis rappelée de l'Église catholique tout le temps. Il y a un moment où, en tant que... Pourtant, je suis en France depuis très très longtemps, mais en tant qu'Américaine, d'entendre le procureur dire « faire revenir l'accusé dans la société des hommes », c'est pas un problème aux États-Unis. Il a commis un crime, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il acquitte cet acte? Et on est très impressionné, en tout cas moi je suis très impressionné par le jeu de la collectivité au procès, dans un procès français. On trouve une solution pour lui et il y a vraiment une volonté de fermer la blessure, donc on tient compte de tout le monde. Pour rebondir sur l'idée de la pluralité et la, il y a forcément pluralité dans le sens où il faut que le jury trouve un compromis et dans certaines situations il faut trouver l'unanimité parce qu'on peut, dans les états où il y a peine de mort, il faut une unanimité. Donc ça c'est des problèmes qui sont très lourds et très difficiles parce que c'est difficile de trouver cette unanimité. Mais là aussi où la pluralité, il y a des moments où on le voit bien, où il remonte à la surface, c'est pour revenir sur DSK, la question de plausibilité. Il n'y a pas de vérité hein, dans un procès. On n'a pas cette illusion qu'il y a une vérité. Qui a la vérité ? Je n'ai pas été une mouche sur le mur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle peut dire, il peut dire, et même la mouche a vu de son angle. Donc, il n'y a pas de vérité. Et on conduit un procès dans le système de common law où on est parfaitement conscient du fait que la vérité, on ne le saura pas. En revanche, qu'est-ce qui est plausible ? On convainc le jury, on essaie de donner quelque chose d'acceptable, qui est le plus acceptable possible, vu les preuves qu'on a, vu les témoignages qu'on a. Et alors que, quand Cyrus Vance a laissé tomber les charges contre DSK, c'est parce qu'il ne pouvait pas convaincre. C'est pas parce qu'il pensait que DSK était innocent. À la limite, ce n'était pas important ce qu'il pensait. Il ne pouvait plus convaincre parce que son témoin principal avait perdu sa crédibilité. Donc, crédibilité est importante dans un procès américain. J'ai eu une discussion avec un avocat, je crois que c'était un avocat, au moment de la... quand Vance a abandonné les charges, et il m'a dit « mais il a fait son travail trop rapidement ». C'est constitutionnel. Il y a une provision de la Constitution qu'il faut pour un procès pénal que ça se passe d'une façon speedy, a speedy trial, parce que la personne risque gros. Qu'est-ce qui est speedy ? Ben, c'est la raisonnabilité. C'est raisonnable dans ces circonstances. Qu'est-ce qui serait raisonnable d'aller plus vite ? Et ensuite, il m'a dit, de toute façon, il a été... La vérité judiciaire, c'est qu'il a été acquitté. Il n'a pas été acquitté, il n'y a pas eu un non-lieu, il y a eu une abandon des charges. C'est donc intéressant de voir comment les deux cultures juridiques interprètent cet acte. Hein? Bon. Je finis juste avec The Wire. Pour moi, The Wire a un aspect judiciaire, mais ce n'est pas une série judiciaire. Et ce qui revient dans The Wire, dans tout ce qu'on a dit ce soir, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que les deux, c'est un journaliste et un ancien policier qui ont travaillé à Baltimore et qui ont vu cette ville devenir à taudis à cause de la drogue, et où les enfants, il y a quatrième saison, je crois, qui est magnifique, qui est sur la question de l'éducation, parce qu'ils avaient un projet de faire 5 saisons pour chaque responsabilité des différentes instances qui ont permis à ce que cette ville se dégrade et que les jeunes sont abandonnés. Donc la première, c'est la police, la deuxième, c'est les docs et toute la mafia et tout ce qu'on permet de faire. Ensuite, il y a le gouvernement municipal, ensuite l'éducation et les médias. Les médias, on prenne... c'est très dur sur les médias dans la cinquième saison. Et ce qu'ils essayent de dire dans ce projet, qui était au départ 5 saisons, ensuite ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, c'est « nous avons fait ça, nous avons permis ». Nous, les Américains, avons permis à ce que cette situation se crée et perdure, et c'est nous qui devons faire quelque chose pour régler la situation. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas dans d'autres villes ? Donc, c'est pas vraiment une série judiciaire, sauf que c'est le public qui est un peu en procès. Mmh. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Je pense de plus en plus de civils, parce que le public est prêt, et de plus en plus de complexité. Il y a une série Suits qui est diffusée. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à cette série. J'ai trouvé agaçant. Les gens sont attachants, mais il y en a eu plein de personnages attachants. Mais il y a quand même des questions très intéressantes au niveau de la morale dans le droit civil. Et donc, je pense qu'on va aller vers ça. Voilà.